0,42% à 1,2309 et il recule également de 0,98% à 136 yens 36. Rapidement sur les marchés de l'or à Paris, le lingot a gagné 20 euros à 10 460. Le Napoléon a progressé de 90 centimes à 60,30 euros. Et à Londres, l'once de métal fin perd 70 cents à 400,80 $. Voilà, je rappelle que le CAC 40 est en baisse modérée de 0,30% à 3 725 points. C'était Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Et nous on termine avec les résultats de la première course à Laval, la combinaison gagnante du Quintet Plus. La voici, 18, 17, 12, 4 et 9. Il est 14h03 sur France Inter et c'est 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Géninet. Bonjour.
Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, une reine de légende, meurtrière de son mari et assassinée par ses enfants, Clytemnestre.
Je m'appelle Clytemnestre, reine d'Argos. Vous me connaissez bien. Voici 3000 ans que vous me montrez du doigt en frémissant d'indignation. J'ai tué mon époux Agamemnon et j'ai péri de la main de mon fils Oreste.
D'histoire. Nous pouvons aller sur la Lune, voler à la vitesse du son, communiquer sur Internet et vivre plus de 100 ans. Malgré les progrès de la science et de la technique, les passions qui nous animent n'ont pas changé depuis des siècles. L'amour, la haine, la jalousie, la vengeance, l'ambition ou la peur de la mort sont les mêmes sentiments que ceux qu'éprouvaient jadis les personnages de Sophocle, d'Eschyle, d'Homère ou d'Euripide. Et parmi eux, les membres d'une famille dont la tragédie a inspiré des générations d'écrivains, les Atrides, descendants d'un roi légendaire d'Argos, qui avait tué les enfants de son frère pour les lui faire manger. Ils portent des noms que nous connaissons bien. Agamemnon, Ménélas, Hélène, Iphigénie, Oreste ou Électre. Mais aussi la femme la plus tristement célèbre de la mythologie grecque, Clytemnestre, cette reine adultère qui avait assassiné son mari à son retour de la guerre de Troie.
Ne m'a-t-on pas aimé jadis? Tout le monde aimait Agamemnon, tous, hors celle qui était ma vie. Souviens-toi que le jour de mon retour, elle m'embrassa. Et pendant que je fermais les yeux dans un soupir de plaisir, surgit son amant qui enfonça son couteau dans ma gorge.
Je suis Électre, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre.
Quelle misère, quelle pitié.
Et que ma vie est amère. Je pleure le roi mort et celui qu'on a banni.
Elle doit penser à son frère.
Oui, à Oreste.
Simone Berthier, bonjour.
Bonjour.
Alors, après avoir écrit plusieurs livres sur les reines de France, vous venez d'en consacrer un à une reine légendaire, que vous faites parler d'ailleurs dans un livre, Apologie pour Clytemnestre. Alors cette reine dont vous prenez la défense, alors qu'elle est vraiment un des personnages les plus monstrueux, si je puis dire, en tout cas les plus attaqués de la mythologie grecque. Pourquoi cette réhabilitation de Clytemnestre? Elle a commis des crimes abominables.
Écoutez, elle a commis un crime abominable, elle a assassiné son mari. Bon, avant elle l'avait trompé, mais disons que c'est banal quand même. Pour le reste, elle n'est pas si monstrueuse qu'on a bien voulu le dire. Mais en revanche, elle a été la plus décriée de tous les personnages de cette famille maudite des Atrides, parce que pour les dramaturges, il faut bien quand même attirer l'intérêt du spectateur sur tel groupe de personnages au détriment des autres. Alors, ce sont toujours ses enfants qui sont les plus sympathiques. À la rigueur, son mari et elle, mais on la montre du doigt, c'est un petit peu le bouc émissaire de la tragédie.
Alors elle a régné avec son mari sur Argos, enfin Mycène, c'était la capitale
oui,
d'Argos.
Alors, oui.
Mais est-ce qu'elle-même a existé?
Alors écoutez, on n'en sait rien. C'est un personnage de légende. La guerre de Troie a certainement eu lieu, d'après les fouilles, peut en être sûr, mais qui régnait à Troie à ce moment-là, quels sont les Grecs qui ont mené l'expédition, y a-t-il eu d'ailleurs une expédition comme celle que raconte Homère, nous n'en savons strictement rien. En revanche, on ne peut pas dire que ce soit de la pure fiction, parce que les Grecs, eux, croyaient à l'existence de ces personnages, ils croyaient que la guerre de Troie avait réellement eu lieu, et donc la légende faisait partie de leur histoire culturelle, au moins. Alors, on est à cheval entre l'histoire et légende, oui. avec les Atrides.
Alors oui, les Atrides, alors, c'est une famille tout à fait étonnante. On connaît leur nom, on connaît moins un peu l'histoire ou l'origine de leur histoire à ces Atrides. Clytemnestre était un peu au centre de tout ça. Peut-être nous rappeler est née, quelle est cette malédiction des Atrides qui tient au chef, si je puis dire, de la dynastie, qui était un roi de Mycène, qui était Atrée.
Oui, alors à vrai dire, la malédiction est antérieure. Elle remonte beaucoup plus loin. Elle remonte à un ancêtre qui s'appelait Tantale, et qui avait déjà commis un crime affreux. Il avait servi son fils Pélops en festin aux dieux, semble-t-il pour les honorer, et en espérant que les dieux en échange lui offriraient l'immortalité. Mais les dieux n'ont pas marché. On a ressuscité Pélops, et la dynastie a continué au prix de quelques crimes. Ils étaient très riches également. Donc, s'en est venu jusqu'à Atrée et Thiès, qui étaient deux frères. Ils se sont disputés le pouvoir, et il y a une histoire d'agneau d'or. On a dit que le trône serait adjugé à celui qui détiendrait un agneau à toison d'or. Alors Thiès a séduit la femme d'Atrée et s'est fait donner l'agneau. Et l'affaire a été découverte. Finalement, Atrée a chassé son frère Thiès et un beau jour l'a invité pour une réconciliation et a tué ses enfants, les a coupés en morceaux et les lui a servis. Oui, voilà. Alors ça, c'est l'horreur. Mais c'est dans la famille. Hein, ouais. C'est une bonne tradition.
Alors, cette famille, Simone Berthier, Clytemnestre, non, fait pas partie. Elle fait partie que parce qu'elle se marie avec le fils d'Atrée, voilà. Qui était Agamemnon.
Alors, il y a deux fils d'Atrée, il y a Agamemnon et Ménélas. Voilà. Et alors, ils essayent quand même de s'entendre. C'est-à-dire qu'Agamemnon revendique pour lui le pouvoir et cède à Ménélas la femme qu'il aime, c'est-à-dire la belle Hélène, qui est la sœur de Clytemnestre.
Alors, il y a beaucoup de noms, il faut peut-être rappeler. Oui. Alors, donc, Clytemnestre épouse le roi de Mycène, devient reine de Mycène, donc au bout d'Argos, c'est-à-dire épouse Agamemnon, et le frère d'Agamemnon, Ménélas, épouse Hélène.
Or, qui est Hélène, la sœur de Clytemnestre.
Voilà, c'est ça. Hein.
Voilà, donc les deux frères épousent les deux sœurs, si vous voulez.
C'est ça. Alors, Hélène, par son mariage, fait de Ménélas le roi de Sparte, le futur roi de Sparte. Hélène, la sœur de Clytemnestre, la détestait, à l'évidence.
Oui, enfin, quand je dis sœur, d'ailleurs, c'est demi-sœur, parce que la légende veut qu'Hélène soit la fille de Zeus, alors que Clytemnestre est tout bonnement la fille de son père, Tindare. Oui. Alors, donc, ce sont deux sœurs qui, évidemment, sont très différentes, et toute l'admiration va à Hélène, et Clytemnestre se sent complètement dévalorisé à côté de la belle, la trop belle.
Oui, à la cour de Sparte, on ne voit qu'Hélène.
On voit qu'Hélène.
Elles sont très différentes l'une et l'autre.
Elles sont très différentes. Bon, moi, j'en...
Enfin, d'après ce que vous dites, ce livre, c'est Clytemnestre raconté par vous. C'est vous qui êtes Clytemnestre.
Vous me posez une question sur la présentation. J'ai beaucoup hésité et j'ai pensé que le mieux, c'était quand même de la faire parler. Donc, ce sont des pseudo-mémoires, si vous voulez. Je me suis autorisée du fait qu'en Grèce, devant un tribunal, les accusés étaient obligés de plaider leur cause eux-mêmes. Mais il y avait naturellement des spécialistes qui écrivaient leurs discours dans la coulisse et qui s'appelaient des logographes. Alors, j'ai écrit le plaidoyer que Clytemnestre prononce pour sa défense devant la postérité. C'est le sens du mot apologie. D'ailleurs, c'est pas du tout éloge. Je ne la donne pas en modèle, mais je veux simplement lui fournir des circonstances atténuantes.
Alors, parmi ces circonstances, il y a donc Hélène, qui était vraiment une femme un peu légère, dont Clytemnestre était extrêmement jalouse. Alors, Clytemnestre épouse Agamemnon. Elle, au début, avant d'assassiner son mari, c'était une épouse exemplaire.
Ah, mais elle a été parfaite pendant 15 ans. Oui. Agamemnon ne tarit pas d'éloges sur son compte. Elle lui donne 4 enfants. Alors, trois filles, ça c'est un peu ennuyeux, on aime mieux les garçons, mais il finit par arriver un fils à la fin, c'est-à-dire Oreste.
Oreste, hein.
Et tout va bien, tout va bien. Et elle, comme toutes les femmes de son milieu, elle est chargée de gérer les domaines. Lui, il fait la guerre, il s'en va piller à droite et à gauche dans des expéditions militaires un peu partout. Et elle assure l'intendance à la perfection.
Alors, épouse exemplaire, contrairement à sa sœur Hélène, qui se fait enlever, on le sait, par un Troyen, Paris, ce qui provoque le désespoir de Ménélas, la colère de son frère Agamemnon et la guerre la plus célèbre de l'Antiquité.
Le Troyen a enlevé Hélène. Il l'a emmenée avec lui, de force et contre son gré.
Cette agression atteint en même temps toutes les femmes de la Grèce.
Que tous nos bateaux prennent la mer. Poursuivons-les.
Nous allons demander l'aide de toutes les cités de la Grèce. Tous les peuples vont s'unir dans une guerre pour l'honneur. Mon devoir et un devoir des plus sacrés m'oblige à être votre chef pour aller venger l'honneur de mon frère. Nous y mettrons tous, mon frère. Pour venger ton honneur.
Et c'est ainsi que pour venger l'honneur de son frère, Agamemnon prenait la tête de l'expédition des Grecs contre les Troyens. Est-ce qu'Hélène a été enlevée, comme on le dit parfois, comme on l'a entendu dans cet extrait de Péplum, ou est-ce qu'elle est partie par amour pour Paris?
Oui, écoutez, alors cet extrait quand même, il est un peu suspect.
C'est un Péplum, oui.
Oui, oui. Alors d'abord, la légende affirme qu'Hélène est partie de son plein gré. Oui. Elle est tombée éperdument amoureuse de Paris et réciproquement. Par derrière, il y avait d'ailleurs Aphrodite qui fait cascader la vertu, comme chacun sait, depuis qu'Offenbach l'a chanté sur toutes les scènes du monde. Donc, elle est partie de son plein gré. Elle a aussi emporté tous ses trésors, sa dot et puis les trésors de Ménélas. Elle a laissé sa fille sur place. Bon, donc, l'histoire du rapt, c'est pour sauver...
Ah, il y a des auteurs grecs qui l'ont affirmé.
Oui, mais tardivement. Et c'est pour sauver l'honneur de Ménélas. Et d'autre part, l'expédition elle-même avait peut-être pour but de venger l'honneur de Ménélas, mais elle avait aussi pour but de piller Troie, qui était une ville réputée richissime. Alors, on voulait vraiment rapporter l'or de Troie, les belles captives, bref, les motivations n'étaient pas toutes parfaitement honorables.
Alors, cette expédition commence par quelque chose d'épouvantable qui va provoquer la haine de Clytemnestre pour son mari, pour Agamemnon, parce que Agamemnon va tuer leur fille, Iphigénie. Alors là, c'est abominable, ça.
Oui,
pourquoi ce sacrifice?
La sacrifier, voilà. Alors, le sacrifice d'Iphigénie, c'est quelque chose de très important parce que il y a plusieurs versions. En fait, les dieux réclament la mort d'Iphigénie pour faire souffler les vents favorables qui conduiront la flotte à Troie. Bon. Mais pourquoi réclame-t-il ce sacrifice? Il y a plusieurs versions. Agamemnon aurait insulté la déesse Artémis, aurait tué un cerf lui appartenant. Enfin, il aurait fait le vœu d'offrir à la déesse ce qui naîtrait de plus beau dans l'année, c'était sa fille. Bref, il y a des tas d'explications. En fait, la légende remonte à une très ancienne coutume pratiquée dans les pays de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire des sacrifices humains destinés à se concilier les dieux au moment d'une entreprise importante, soit expédition militaire, soit édification d'un bâtiment important. Alors, c'est ça qui est à l'origine. Et Agamemnon se qualifie, en sacrifiant sa fille, il se qualifie pour être le chef. Parce qu'évidemment, tout le monde est frappé de terreur, personne ne lui envie sa place, donc il commandera l'expédition. C'est son ambition, finalement, qu'il détermine à
tuer sa propre fille. Et du coup, évidemment, qui fait que Clytemnestre, de ce jour-là, le déteste et le laisse partir. Elle ne va plus le voir pendant 10 ans.
Mais elle n'a pas le choix. Elle le laisse partir, il s'en va.
Il va à Troie.
Les vents se mettent à souffler et la flotte prend la mer. Oui. Bon. Mais la haine de Clytemnestre mijote pendant 10 ans, pendant les 10 années que dure la guerre de Troie.
Et là, alors, l'épouse vertueuse, Simone Berthière, devient adultère. Elle trouve un amant qui s'appelle Égiste.
Oui. Alors, d'abord, disons, là aussi... Pendant 10 ans, tout de même 10 ans de guerre, elle n'était pas la seule parmi les épouses de combattants à se consoler avec des gens restés sur place.
Vous la défendez à chaque fois.
Je la défends pas, mais c'est la vérité. Toutes les légendes le disent. Pénélope est l'exception. La femme.
D'autant que l'époux lui-même, Agamemnon,
ils ont tous un ou plusieurs ménages là-bas sous les murs de Troie.
Oui.
Alors Pénélope, l'épouse fidèle, c'est l'exception. Et la plupart des autres ont trouvé la place prise quand ils sont rentrés de la guerre, il faut bien le dire. Alors évidemment l'amant qu'elle prend est assez mal choisi parce que lui fait partie de la famille maudite.
C'est un Atride aussi.
C'est un Atride, bien entendu, c'est le cousin germain d'Agamemnon. Et alors c'est un fils de Thieste, mais c'est un fils de Thieste qui part sur le marché et le fruit d'un inceste parce qu'il y avait un oracle qui a dit à Thieste que s'il voulait se venger de son frère Atrée, il fallait qu'il ait un enfant de sa propre fille.
C'est abominable.
C'est abominable.
Autrement dit, il était le fils de sa sœur,
oui,
c'est Égiste.
Oui, Exactement.
Ouais.
C'est quand même une hérédité un petit peu lourde. Et alors, évidemment, il a séduit Clytemnestre parce qu'il a envie de récupérer son trône en profitant de l'absence d'Agamemnon. Mmh. Ça se comprend. On le présente souvent comme un usurpateur, mais au fond, il estime avoir autant de droits sur le trône de Mycène qu'Agamemnon.
Alors, pendant 10 ans, donc, Égiste et Clytemnestre vont couler des jours heureux à Mycène en attendant le retour d'Agamemnon. Et là, il revient et aussitôt, les deux amants décident d'assassiner le mari trompé.
Voilà.
Alors ça s'est passé dans des conditions abominables,
Ça s'est passé dans des conditions assez abominables, mais Clytemnestre se déclare responsable. C'est elle, au moins chez Eschyle, qui a tout organisé. Chez Homère, c'est Égiste qui tue Agamemnon, simplement lors d'un banquet autour du trône. Mais Clytemnestre, elle, veut que la mort d'Agamemnon corresponde au sacrifice de sa fille. Donc, il s'agit de l'emprisonner. Elle l'emprisonne au sortir de son bain dans un peignoir truqué, dont les manches sont fermées, et pendant qu'il se débat là-dedans, de face, elle le tue avec une épée, chez Eschyle du moins. C'est pas une hache, c'est une épée chez Eschyle.
Parce qu'on la voit sur
les vases, elle est sur avec une hache.
Ouais.
C'est une autre version de la légende. Mais elle veut sacrifier Agamemnon et elle espère que ça mettra fin à la malédiction. En échange de la mort d'Iphigénie, eh bien, il y a la mort d'Agamemnon. Une vie pour une vie, c'est fini, espère-t-elle. Elle se trompe lourdement.
En tout cas, Clytemnestre, vous le dites, n'est plus alors l'épouse d'Agamemnon, mais sa meurtrière, et c'est le début d'un procès qui inspire depuis 3000 ans des générations d'écrivains. Écoutez cet extrait de film tiré de l'Électre d'Euripide, Clytemnestre expliquant à sa fille pourquoi elle a tué son père.
Quand mon père me donna pour épouse à Agamemnon, ce n'était pas pour qu'on me tue, moi ou mes enfants. Mais hélas, ton père fit venir Iphigénie en Olympe sous prétexte de la marier à Achille. Il l'étendit sur un autel. Et là, il l'immola. Il lui trancha sa blanche gorge. Si encore il avait fait cela pour sauver les Grecs ou ses autres enfants, je lui aurais sans doute pardonné. Oui, mais ma fille devait-elle être sacrifiée aux folies d'Hélène ? Et pour quel motif aurais-je été seul à subir et à payer? Oui, je l'ai tué. Et j'ai choisi le seul moyen possible. M'allier à ses ennemis. Le meurtre de ta fille te sert d'excuse à tout.
Si comme toi-même tu le prétends, il faut qu'un meurtre soit payé par un meurtre, ne penses-tu pas que bientôt ce ne soit aussi ton heure?
C'était France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Clytemnestre.
Et c'était le cœur des captives de Troie, un extrait, une chanson inspirée des Troyennes d'Euripide. Alors Euripide, qui n'était pas le seul à s'intéresser au destin de Clytemnestre et à la juger, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, depuis l'Antiquité, Clytemnestre a une image double. Hein. Celle d'abord, donc, on l'a vu, d'une femme monstrueuse qui assassine son mari dans l'Odyssée d'Homère. Le fantôme d'Agamemnon fait le récit de sa propre mort. « Je mourus, une épée dans le corps, et la femme à tête de chienne m'envoya vers l'Hadès, sans daigner me fermer ni les yeux, ni les lèvres. » En une image sanglante que les Grecs voyaient quasiment en direct au théâtre, dans la tragédie d'Eschyle. « Clytemnestre est debout, le pied sur le corps du roi, une hache à la main, écrit Eschyle. » Et elle dit « Sur le corps de mon adversaire frappé, je mets le pied et je triomphe. Gisant, il éructe son âme, il vomit un violent jet de sang. Ces noires gouttes qui m'inondent ont pour mon cœur et pour ma chair épanouie la fraîcheur de la rosée du matin. » Alors cette violence, tout ce sang, sont évidemment totalement impensables dans la tragédie française.
Mais alors, cette femme terrifiante, on la retrouvera au XXe siècle, par exemple chez Claudel, Clytemnestre, la hache à la main, les pieds dans le sang de son époux, la semelle sur la bouche de l'homme. Ou encore à Vienne, hein, de manière plus suggérée, chez Hofmannsthal, dans sa pièce Électre. Alors, l'entrée en scène de la vieille Clytemnestre dit tout, vous allez voir. À la lueur des torches, son vêtement écarlate accuse le caractère blafard de son visage, déjà blême et bouffi. S'appuyant sur une canne, elle avance, couverte de pierres précieuses et d'amulettes, les doigts raides de toutes ses bagues. Ses paupières sont immenses et elle semble avoir une peine infinie à les tenir levées. Oh, Électre, sa fille, ne peut pas croire que cette femme monstrueuse, cette sorcière, soit sa mère. « Je ne connais rien au monde, dit-elle, qui me fasse autant horreur que de penser à ce corps, comme à la porte obscure par où j'ai rampé vers la lumière du monde. » Mais alors, dès l'Antiquité, une autre image de Clytemnestre apparaît, celle plus indulgente d'une épouse trompée, d'une mère inconsolable depuis la mort d'Iphigénie, sa fille. Dans l'Électre d'Euripide, par exemple, elle explique son geste à sa fille. Agamemnon a persuadé Iphigénie qu'il allait la marier à Eschyle, à Aulis, et à Aulis, donc, il l'a étendue sur l'autel et il a moissonné la blanche joue d'Iphigénie. Alors plus tard, dans la tragique Racine, Iphigénie, Clytemnestre ne comprend pas comment Agamemnon a pu sacrifier leur fille pour la guerre, pour les dieux. « Barbare, lui dit-elle. Quoi ? L'horreur de souscrire à cet ordre inhumain n'a pas, en le traçant, arrêté votre main. Est-ce donc être père ?» Alors, plus simple, plus cru aussi, la Clytemnestre de Jean Giraudoux dit qu'elle n'a jamais aimé Agamemnon, ce barbu un peu minable. Du jour où il est venu me chercher avec sa barbe bouclée, de cette main dont il relevait le petit doigt, je l'ai haï. Il était pompeux, indécis, niais. C'était le fa des fa.
Vous n'êtes pas, on le voit, la première Simone Berthier à défendre Clytemnestre. Cela dit, pourquoi est-ce qu'elle a été à ce point attaquée par la majorité des auteurs grecs, ou même après eux? Est-ce que c'est parce que c'était une femme et que finalement, on tolérait plus d'un homme que d'une femme ce qui se passait? Après tout, Agamemnon était lui aussi un époux adultère.
Écoutez, il n'y a pas de doute. Hein. On a toujours toléré d'un homme ce qu'on interdisait à une femme, essentiellement pour des questions de descendance. Il faut que les enfants soient légitimes. Donc la femme doit évidemment être fidèle et l'homme a tous les droits. Donc, il y a cela. Ça n'est pas seulement vrai d'Agamemnon. C'est vrai de tous les siècles suivants. C'est vrai de tous les auteurs qui ont repris le thème. Je dirais même que la sévérité des auteurs de civilisation chrétienne pour Clytemnestre est peut-être encore plus grande que celle des auteurs antiques.
Cela dit, on était indulgent avec sa sœur, avec Hélène de Troie.
Et oui, mais c'était la fille de Zeus, c'était une déesse.
Oui. Non.
Tandis que Clytemnestre, elle, risquait de donner le mauvais exemple. Vous comprenez? C'était une femme tout à fait ordinaire. Elle avait été parfaite pendant 15 ans. La voilà qui se prend un amant qui tue son mari. Donc, c'est détestable. Elle risque de faire école. Je crois qu'on ne l'a pas pardonnée.
Cela dit, elle va le payer très cher parce qu'il faut rappeler qu'elle est assassinée par son fils, par Oreste. Alors là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors,
elle a chassé Oreste. Son fils et sa fille, Électre, elle les a chassés.
Non, elle les a pas chassés. Électre est restée auprès d'elle. Elle passe son temps à l'injurier, d'ailleurs. Enfin, Électre injurie Clytemnestre sans arrêt. Et d'autre part, chez Eschyle, c'est Clytemnestre elle-même qui a écarté Oreste quand il avait 7 ans, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour l'élever et qu'un garçon devait être élevé par un homme. Bon, Égiste, qui était son amant, mais clandestinement, ne pouvait pas s'en charger. Donc, elle l'a envoyé chez son oncle, où il a été parfaitement élevé, dans une famille très unie et en compagnie du fils de la maison, le fameux Pylade, son inséparable ami. Donc, elle n'a pas chassé son fils. On a essayé d'accumuler sur elle des quantités de crimes annexes, alors qu'il y en a un et un seul, c'est l'assassinat d'Agamemnon. Il y a une sorte d'animosité systématique contre Clytemnestre. Et pas chez tout le monde. Alors, Euripide lui trouve des excuses. Et Euripide la montre humaine. Et dans la pièce Euripide consacré à sa mort, qui joue le mauvais rôle, c'est Oreste et Électre qui l'assassinent vilainement alors qu'elle était venue aider sa fille en croyant que la fille avait besoin de son secours au moment d'accoucher.
Parce que là, c'est plus un mari qu'on assassine, là, c'est carrément la mère.
Alors, on assassine la mère.
mais, là, c'est l'horreur.
Voilà, alors il y a un gros problème qui se pose, hein, parce que le matricide fait beaucoup plus horreur que le meurtre d'un mari. Mmh. Le matricide, c'est le meurtre irrémissible, mais ça, bon, Freud n'était pas grec, bien entendu, mais...
Il a surtout parlé d'Oedipe, pas tellement
oui,
de reste.
Oui, mais hein. En revanche, l'interdit portant sur la mère mmh. était aussi fort chez les Grecs que dans la Vienne de Freud.
Et que sont devenus, selon les auteurs grecs, Oreste et Électre, les enfants de Clytemnestre? Est-ce que c'est la malédiction des Atrides qui continue?
Non, alors finalement, Oreste a été jugé, les dieux l'ont pris en charge, parce que ce sont les dieux qui lui avaient donné l'ordre de tuer sa mère. Il n'avait pas le choix, ou bien il manquait à son il a pour devoir de venger son père. Alors, il risquait de manquer à son devoir s'il ne tuait pas sa mère. Mais s'il tuait sa mère, il commettait le plus horrible des crimes. Donc, finalement, il était pris entre deux exigences absolument incompatibles. Alors, les dieux l'ont tiré de là. Et ils l'ont tiré de là en instaurant un tribunal humain qui le relaxe, faute de... parce qu'ils ne peuvent pas établir vraiment sa responsabilité. Mais après, c'est fini, le matricide sera formellement interdit. Donc, on le relâche. Il ne lui arrive rien de bon parce qu'il ne survit pas, finalement, à ce qu'il a vécu.
Qu'est-ce qui fait, Simone Berthière, que 3000 ans après, ces légendes puissent encore nous fasciner? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle... Bon, certes, il n'y a plus les crimes comme ceux de Atrée tuant les enfants de son frère pour les faire manger. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnages, finalement, sont très actuels quand
Oui,
on...
écoutez, d'abord, tous les thrillers actuels se nourrissent d'intrigues du même genre. Hein. Alors, je ne dis pas qu'elles soient vraies, elles sont probablement inventées, mais disons qu'elles touchent quand même à un certain goût de l'horreur qui reste vivant chez les lecteurs. Bon, et puis surtout, il y a les problèmes moraux qui se posent. Il y a le problème de la vengeance.
La vendetta, c'est une thème, vendetta familiale.
Voilà, le thème général de cette histoire, c'est que la vengeance ne s'engendre elle-même indéfiniment, que le meurtre appelle le meurtre et que le seul moyen de s'en tirer, c'est justement d'interdire la vengeance privée, de confier le châtiment des crimes à des tribunaux. Et ça me paraît un thème de tout à fait d'actualité. Hein.
C'est la morale de Clytemnestre, au fond, de l'histoire de Clytemnestre.
Mais c'est la morale de l'histoire de Clytemnestre. D'autre part, ce qui m'intéresse en Clytemnestre, c'est qu'elle revendique sa responsabilité. Je l'ai fait. Alors que la plupart des gens de son époque disent « Ah, la colère s'est emparée de moi, je n'y suis pour rien, j'ai été le jouet de forces extérieures. » Clytemnestre dit « Non, c'est moi, et ça c'est nouveau, et je n'aime pas les irresponsables. » C'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à elle.
Merci Simone Berthière. Je rappelle, et vraiment je recommande la lecture de votre livre, Apologie pour Clytemnestre, c'est passionnant, et c'est publié chez De Fallois. Vous êtes également l'auteur, on le sait, d'une série de biographies des reines de France, d'Anne de Bretagne à Marie-Antoinette, publiée également chez De Fallois. Je signale aussi le dictionnaire de mythologie grecque et romaine de Jean-Claude Belfior, publié chez Larousse, et qui compte plus de 2500 articles et qui permet de retrouver tous les héros dont on a parlé avec vous aujourd'hui. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Ulysse de Mario Ceccaberini, Hélène de Troie de Robert Wise et Électre de Michel Kakoyanis avec Irène Papas dans le rôle d'Électre. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Sébastien Royer et Stéphane Corrigan, documentation Virginie Bloch-Lenay, Claire